Fabrice souffrait d'une autre réalité. Il vivait dans la hantise du manque. Deux inquiétudes le faisaient souffrir. La première était le manque d'argent. Dans sa famille, comme des choses du sexe, on n'en parlait jamais. Le sujet était absent, ni contourné, ni craint, plutôt jugé sans intérêt. Secrètement, Fabrice redoutait de finir clochard à la suite de quelques revers tels qu'on en lit dans les gazettes. Il achetait tout en double, prenait un vrai plaisir à faire les courses, surchargeait les chariots et comblait ses placards. Il n'était pas loin de penser qu'on n'est que parce qu'on entasse. Le second manque qu'il craignait touchait les mots. Quand on dit « les mots me manquent », on cherche à exprimer l'émotion qui empêche de traduire les sentiments par des phrases. Fabrice éprouvait parfois ses difficultés à trouver le mot précis pour parler d'un état d'esprit, d'un comportement. Par exemple, galant ou orgueil n'arrivait pas spontanément à sa bouche. Pour ne pas rester muet, il disait « cet homme se comporte élégamment avec les dames » ou « il est pétri de… il a une haute opinion de lui-même ». Et si la conversation continuait sur ce thème, dès que le mot lui revenait, car cela le turlupinait, il glissait. C'est de la galanterie qu'il faut toujours faire preuve, ou les orgueilleux, les vaniteux, les fats m'horripilent. Ces trous de mémoire le troublaient. Pire, il commençait à agacer son entourage, à passer son temps à se plaindre qu'il allait à l'aphasie. Il alla même un jour consulter un orthophoniste qui le soumit à une série de tests et de jeux dont, à sa grande honte, Fabrice sortit avec un sans faute, mais pas entièrement rassuré. Il consulta un neurologue qui, constatant que le cerveau fonctionnait parfaitement, que s'il pouvait y avoir des absences ponctuelles et vite comblées, sa capacité de concentration était sans faille. Il le raccompagna à la porte de son cabinet. « Vous faites tort à vos connaissances. Vous n'êtes pourtant pas ramolli, » dit en souriant le docteur. « Quand vous avez un mot sur le bout de la langue, attendez patiemment qu'il en tombe, sans vous rendre malade. » Professionnellement, Fabrice était reconnu. Il s'était même signalé comme le gardien des mots, le défenseur d'une langue précise, concise, et finalement exquise. Il s'était entiché de francophonie alors qu'il était en reportage dans les pays baltes, découvrant l'indépendance après la chute du rideau de fer. À l'ambassade de France de Tallinn, il avait rencontré une déconcertante ambassadrice de sa langue. Elle avait la blondeur nordique, se prénommait Maid et travaillait là. Les ancêtres de Maid avaient commercé avec les Vikings. Les chevaliers teutoniques les avaient christianisés, ils avaient connu Pierre le Grand. Ses compatriotes se sentaient en communauté avec les Finlandais. Bref, la jeune femme qui aurait pu se contenter de son finnois n'avait décidément aucune raison historique de regarder vers la France. Tourner ses yeux, non, mais ses oreilles, oui. Quand son pays était fermé, comme elle le disait dans un euphémisme glaçant, pour qualifier la période soviétique. Elle écoutait France Inter. Elle avait appris le français dans des dictionnaires familiaux, y compris un dico d'argot qui lui avait permis en toute fausse ingénuité de posséder quelques expressions bien salées. Mais il lui manquait la pratique et la prononciation. C'est grâce à la radio qu'elle avait perfectionné ses connaissances. Depuis, elle était intarissable sur les voix sans visage, si évocatrice de liberté, avec un attachement particulier aux spécialistes de la météo. Il donnait toujours des températures supérieures d'au moins 10 degrés à celles de chez moi. Maid en aurait remontré à bien des Français dans la maîtrise de leur propre langue. Fabrice était régalé de l'entendre raconter comment elle aurait gagné au jeu des 1 000 francs. Ce jour-là, elle savait que le dispositif articulé de captage du courant pour les locomotives électriques sur la caténaire, s'appelle un pantographe. Cette anecdote servait de socle à un discours qui, même s'il les agaçait, tombait à chaque faute sur les confrères de Fabrice. Il leur disait « Pensez à Med, songez aux Québécois qui voient dans leur résistance linguistique un enjeu vital. Que cela vous plaise ou non, vous êtes dépositaire de la langue. Si vous refusez de la défendre, au moins ne l'agressez pas. » Au fond d'eux-mêmes, ils savaient que ces mots étaient justes et ils ne se privaient pas de faire appel au secours précieux de la parole insoupçonnable de ce rédacteur en chef Tatillon.